C'est reparti pour un nouveau numéro d'Esprit Sport. Pendant une heure, nous allons évidemment parler de sport avec une composition d'équipe type cette semaine. À suivre aussi une équipe qui se ressemble un petit peu comme celle de la semaine dernière. Peut-être que certains ont une fidélité avec la sonnerie, une fidélité à toute épreuve. Peut-être que d'autres sont avec nous aujourd'hui juste pour demander quelque chose à la fin de l'année. Corentin, lui, est dans la première catégorie. Bonjour Corentin.
Bonjour Jonathan, et je dirais on change pas une équipe qui gagne.
Ah oui, ça c'est sûr, une belle équipe qui gagne. Après un week-end qui a vu les verts et blancs s'incliner en terre basque, notre paloise est avec nous.
Et allez.
Vous appréciez bien ?
J'apprécie le maillot, en effet, vous partez un magnifique maillot. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce maillot de l'aviron bayonné.
C'était le maillot de Bayonne Pau à Anoeta l'année dernière.
Et oui, vous aviez perdu.
Je sais pas, oui. Ben c'est le maillot, il était en solde. Puis c'était un maillot d'une date un petit peu historique, ce match à Anoeta, à guichet fermé, à Santander, à Saint-Sébastien, pardon. Et puis il est là, notre amoureux des petites équipes. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Ah, vous, France-Gibraltar, ça vous a fait rêver, hein?
Bah, ça m'a fait rêver, oui, plus pour les bleus.
Ah, vous n'avez pas...
Le
défenseur central de 42 ans, c'est ça qui vous fait rêver, vous?
Ouais, bon, il a vite douché mes espoirs, hein, parce qu'avec le but contre son camp à la deuxième minute, les deux buts contre son camp en moins de 10 minutes.
C'est très difficile de postuler à l'équipe de Gibraltar, voilà, sachez-le.
Ah ben oui, il n'y a pas beaucoup de Gibraltariens, c'est aussi pour ça.
Et voilà, faut descendre d'un ancêtre au deuxième degré, enfin c'est très compliqué. On va retrouver les tops et les flops dans cette émission, évidemment. À suivre un entretien face à face où nous retrouverons Sylvain Houlès, entraîneur du Toulouse Olympique 13. Il reviendra sur cette longue saison, cette défaite en finale d'accession en Super League et les actualités du club avec la nomination d'Olivier Dubois en tant que nouveau président du TO 13. Une question est passée dans l'esprit des chroniqueurs. Après un week-end en demi-teinte, des internationaux n'ont-ils pas repris trop tôt, ces internationaux? On essayera de répondre à cette question et on terminera avec les pronostics et analyses de match du week-end pour pourquoi pas vous donner envie d'aller voir le match sélectionné. Mais on commence tout de suite par l'information sportive de la région avec Corinne Saint-Félix.
L'info sport avec Corinne Saint-Félix.
Le Stade toulousain battu par Castres en top 14.
Malgré ses internationaux, le Stade toulousain s'est incliné 31 à 23 contre Castres Olympique samedi lors de la 7e journée de top 14. Castres a tout de suite imposé sa domination défensive et a ouvert le score sur une pénalité. Castres Olympique est la véritable bête noire des Toulousains qui n'ont plus gagné dans le Tarn depuis 5 saisons. Prochain match pour le Stade toulousain à domicile contre Clermont, ce sera le samedi 25 novembre à 21h05.
Le stade toulousain, qui perd d'ailleurs l'international français Melvin Jaminet.
L'arrière international quitte Toulouse et s'engage à Toulon jusqu'en 2028. Un retour aux sources pour le Varois de 24 ans qui rejoint en tant que joueur le club qu'il a formé. Melvin Jaminet, 24 ans, a rejoint l'équipe de France en juin 2021. Il a fait partie de la sélection des Bleus lors de la dernière Coupe du Monde de France. Il signe en 2022 au stade toulousain. Au RC Toulon, l'international partagera le poste d'arrière avec Aymeric Luc et Marius Daumont. Melvin Jaminet intégrera le groupe toulonnais à compter du lundi 27 novembre.
Et ce sera du rugby à 7 pour Antoine Dupont.
Après avoir échoué à conquérir le titre de champion du monde cet automne en France, le capitaine des Bleus s'engage dans l'aventure des JO de Paris avec l'équipe de France de rugby à 7. À défaut de l'or mondial avec le 15 de France, il visera donc l'or olympique à domicile avec le 7 de France. Le 15 de France de Fabien Galthié devra se passer de son demi de mêlée titulaire pour le prochain tournoi des 6 nations qui débutera le 2 février 2024 à Marseille face à l'Irlande. L'équipe de France de rugby à 7 est en ce moment classée 4e mondiale.
Perrine Lafont fait passe sur la saison de Coupe du Monde pour mieux rebondir.
Après 10 années de carrière au plus haut niveau, la skieuse ariégeoise vient d'annoncer qu'elle allait marquer une pause de quelques mois avec la compétition. Ceci après une très grosse saison 2022-2023 et avec dans le viseur les échéances majeures que sont les prochains championnats du monde en 2025 et les JO d'hiver de Cortina d'Ampezzo en 2026. Pour la championne, cette pause aura pour but d'affiner sa préparation par la mise en place d'un important travail athlétique et mental de fond. Perrine Laffont n'avait jusque-là manqué aucune des courses d'ouverture de Coupe du Monde de bosse depuis ses débuts sur le circuit majeur, c'était en 2014.
À noter aussi que l'aventure en Coupe de France continue pour Rodez, Blagnac, Castanet-Tolosan et Pau qui se sont imposés dans ce 7e tour de Coupe de France, mais que le rêve s'arrête là pour Lavernoze, Auch et Toulouse Métropole qui a perdu face à Ajaccio et Lourdes aussi et Auch pardon qui a perdu Lourdes défaite, c'était 4-0 donc voilà, malheureusement tout n'est pas rose mais tout n'est pas non plus à jeter pour les équipes amateurs, on va dire de cette belle région d'Occitanie. Tout de suite, les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Et on va bousculer un petit peu les habitudes avec vous, Erwan. Vous commencez pour les tops et les flops.
Alors, pour mon top, j'ai décidé de parler de Castres. Le CO donc, qui a gagné contre le Stade Toulousain ce week-end, samedi soir plus précisément, sur sa pelouse de Pierre Fabre et qui a franchement extrêmement bien joué. On connaissait Cas comme une équipe rugueuse, une équipe qui défend bien, une équipe même un peu voilà qui aime bien embêter, qui aime bien jouer sur la limite de la règle, etc. Mais franchement, il faut avouer que le Cas qu'on a vu samedi soir et qui a gagné donc 31-23 face au Stade Toulousain, bah, c'était franchement une très très belle équipe qui a su faire de magnifiques essais, notamment le premier essai avec une passe merveilleuse de Poplin et avec donc c'est après ce mouvement de trois quarts qui conclut, ou même avec le premier essai de la deuxième mi-temps qui est conclu par Kokagi, qui est absolument magnifique. Donc voilà, Castres a montré du très très beau rugby, a aussi montré que ça savait faire parler leur puissance. Au final, ils ont été extrêmement complets sur tous les secteurs de jeu, et ils s'imposent vraiment très logiquement face à un Stade Toulousain qui a été en difficulté, alors que pourtant il y avait pas mal d'internationaux de retour sur la pelouse.
Et les flops ?
Ah, et les flops, je comptais mettre Melvin Jaminet, Corinne en a parlé un peu, dans le top, et effectivement, c'est triste de dire que Melvin Jaminet part maintenant du Stade Toulousain. Il avait des arguments à faire valoir qui n'ont pas vraiment été utilisés par le staff toulousain dans son système de jeu, c'est-à-dire que l'idée que Melvin Jaminet, c'est un peu un 15 qui est utile pour la dépossession, avec un jeu au pied qui est très long, il peut viser vraiment le fond du terrain adverse pour essayer de relâcher au maximum la pression, c'est au final peut-être un profil que Toulouse n'avait pas besoin, donc on peut se demander pourquoi le Stade Toulousain a fait venir Melvin Jaminet, parce qu'au début on pouvait dire peut-être que Mola a une idée derrière la tête ou quoi, etc. Au final, on se dit que c'est un passage raté, et qui nuit un peu aux deux équipes, parce que certes, le Stade Toulousain a récupéré un petit peu d'argent, parce qu'il faut pas oublier non plus qu'ils avaient eux aussi une indemnité à rembourser de Perpignan. Au final, il y a eu un joueur qui est venu avec du prestige et qui n'a pas marché. Et pareil pour Melvin Jaminet, on se demande s'il n'a pas perdu une saison dans sa carrière.
Et on en a parlé aussi la semaine dernière de Melvin Jaminet. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait retenir de son passage à Toulouse ? C'est à réécouter évidemment en podcast. Corentin, votre top et votre flop ?
Alors, pour mon top, on va parler de l'équipe de France. Je pense que vous n'y avez pas échappé. L'équipe de France qui a mis une double fessée à Gibraltar. 7-0, 7-0. Deux buts pour Coman, deux buts pour Giroud. Même un but pour Dembélé qui pourtant a du mal à trouver le chemin des filets. Mais surtout, trois buts pour Kylian Mbappé qui passe la barre des 300 buts en carrière avec comme troisième but un lob de 45 mètres. Alors, pour comparer un petit peu ce génie de précocité, c'est plus rapide pour marquer 300 buts que Ronaldo Nazario, que Neymar ou encore Messi, même Cristiano Ronaldo. Il reste encore du chemin pour Kix, quand on voit comment Messi et Ronaldo ont carburé après leurs 30 ans. Voilà, il va falloir continuer sur ce rythme, Kylian, s'il veut espérer être au niveau de ces deux géants du foot. Et puis, comme flop, je voulais parler de basket. C'est un petit peu le fil rouge de la saison avec l'arrivée de Wembanyama au San Antonio Spurs. Problème, cette saison, San Antonio, ça ressemble exactement à la saison passée, c'est-à-dire que c'est la catastrophe, pour être un peu poli. Les joueurs sont sur 8 défaites de suite, et ce malgré la présence et les bonnes performances de Victor Wembanyama. Les hommes de Greg Popovich mènent quasiment 80% de leurs rencontres, mais s'effondrent souvent à la fin des matchs. Les mots sont identifiés, reste plus qu'à trouver un remède pour espérer jouer les playoffs.
Là, on voyage avec vous à Gibraltar, la NBA avec Victor Wembanyama dans le Texas. Là, vous nous faites voyager, Corentin. Hein.
Des top flops internationaux.
Voilà, c'est ça. Et c'est un peu ce qu'on recherche chez vous avec Erwan et ses petites équipes. Coraline, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de ce week-end?
Alors moi, mon top sera pour la tour à Tahiti pour les JO. Je vous en parlais il y a quelques semaines de cette tour, mais de manière négative. Pour rappel, l'épreuve de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024 se dérouleront à Tahiti, dans la ville de Te Huka. À cette occasion, une tour doit être installée pour les juges. Ils étaient initialement partis sur une tour de 14 tonnes, très nocive pour les fonds marins. Et grâce à la mobilisation des associations écologiques et des Tahitiens, la tour sera allégée pour atteindre les 9 tonnes. Risque d'étruire... Comment ?
Sacré régime.
Sacré régime, en effet, effectivement. Ça là, c'est le body summer...
Tahitien,
exactement. Ah, donc le risque de détruire l'écosystème n'est pas nul, mais il est réduit. Le câble prévu pour acheminer la fibre à cette tour sera enlevé après les épreuves. Et mon flop, ce sera pour la performance du Stade Toulousain, adversaire de Castres, dont on parlait à l'instant. La copie est loin d'être parfaite pour les hommes d'Hugo Mola ces dernières semaines. Après avoir conclu les trois matchs précédant la Coupe du Monde avec 2 victoires pour une défaite, la saison a repris avec une victoire bordelaise, puis une défaite à Pau, une victoire contre Perpignan presque limite. Si le match avait duré 10 minutes de plus, c'est pas sûr qu'il gagnait. Pas de points bonus. Heureusement, du coup, que le match faisait 80 minutes. Et samedi soir, une défaite chez les voisins castrés, on en parlait du coup, 31-23. La situation n'est pas catastrophique non plus. Le Stade Toulousain est 7e avec seulement 5 points d'écart avec les Parisiens Stade Français. Mais on attend mieux de la part de nos Toulousains champions de France.
On attend mieux, mais après le match contre Castres, bon, c'est comme tous les matchs contre Castres.
Il n'y avait pas de rythme, il était pas fou, ce match.
C'est un bon petit match à regarder à l'abri, à la maison, voilà quoi.
Oui.
Voilà, je suis content de ne pas l'avoir vu au stade, celui-là.
Oui, voilà.
Mais Erwan, vous, un match contre les petites équipes, ça vous fait rêver ?
Alors, oui, pour l'occasion. Enfin, souvent les petites équipes, mais comme j'expliquais un peu à Corentin avant l'émission, moi j'aime bien les petites équipes quand elles se donnent à fond malgré leurs petits
oui.
moyens. De la même manière que j'ai un peu de mal avec la Roumanie et la Namibie au rugby, parce que j'estime qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais même qu'avec le peu de moyens qu'ils font, ils ne font pas en sorte d'être bons ou compétitifs. Je peux pas saluer cette équipe de Gibraltar qui, dès le début, a joué de manière très agressive. Déjà, il y a sincèrement des contacts qui avaient... Je veux pas l'espérer, hein, je veux pas le penser, bien évidemment. Mais j'avais quand même l'impression qu'ils avaient souvent envie de blesser les joueurs en face. Il y avait
c'est
pas vraiment des prix
sportifs. C'est un petit peu la limite de ces petites équipes-là. C'est que, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Ils ont pas le bagage pour jouer contre des équipes comme l'équipe de France.
Oui, c'est clair. Mais après, bon, 14-0, comme l'a dit Riolo et Vincent Duluc aussi dans l'équipe, c'est que c'est des scores qu'on voyait à l'avant-guerre, c'est des scores qu'on voit plus maintenant.
Ah,
donc même là, 14-0, ok, c'est une petite équipe, mais ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel.
Très haut, oui, puisque c'est le record, il me semble, de l'équipe et de France. C'est bizarre, personne n'a parlé de la F1 qui nous a amené à Las Vegas. Alors voilà, puisqu'on me demande, moi aussi, je vais en profiter. Moi, j'ai préféré en top la course du Grand Prix de Las Vegas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la F1, pour ceux que ça n'intéresse pas et pour ceux qui disent que ça pollue et que c'est juste des voitures qui tournent en rond, je vous invite juste à aller regarder un très court résumé sur YouTube et vous allez voir que, eh bien quand même, avec toutes ces lumières, tout ça, on se laisse porter par cette ambiance de Las Vegas. Et qui, contrairement au vendredi et au samedi, était bien plus réussi. Vendredi, samedi, c'était une catastrophe monumentale, un circuit pas prêt, une organisation catastrophique, des essais libres à 4h30 du matin, heure locale, magnifique. Mais là, le Grand Prix, franchement, si vous avez vraiment 5-7 petites minutes à perdre, un passage aux toilettes peut-être, allez-y, regardez la vidéo, peut-être que franchement vous allez trouver quelque chose, et au moins ça va peut-être, vous allez peut-être trouver ça joli. Le flop, et j'ai vraiment tenu à en parler, c'est la sortie de Bernard Laporte hier soir, qui a tenu des propos égocentriques, dignes des plus grands melons qu'on collectionne à Cavaillon, comme quoi, sans lui le rugby ne fonctionnait pas. Il a dit que, est-ce que si je comprends que mon retour agace, non, il agace les cons, mais des cons, il y en a partout, et cela ne m'intéresse pas. C'est ce qu'il a dit. Il a pu dire aussi les jaloux et les aigris, je ne leur réponds pas et surtout je ne les écoute pas. C'est aussi simple que ça. Alors il est venu sur RMC hier soir pour un petit peu dilapider ceux qui n'avaient pas forcément vu d'un bon oeil. Il a aussi dit il n'y a pas que moi qui suis capable, mais si les gens en place avaient fait leur boulot, on aurait dû être champion du monde. On avait une occasion en or d'être champion du monde, mais certaines personnes ont tout cassé. Il a même aussi précisé que la Coupe du Monde, pour lui, il n'a pas senti que c'était une Coupe du Monde à la maison. honnêtement, c'est des propos honteux d'un ancien président de fédération. Alors peut-être qu'il était énervé, peut-être que voilà, mais en tout cas, c'était véritable catastrophe médiatique de Bernard Laporte hier. Alors après, oui, bon, il a encore des soutiens et compagnie, mais voilà, notamment du côté de Montpellier. Mais pour l'instant, je trouve que ces promos de la part d'un ancien dirigeant de la Fédération française du rugby sont tout simplement
inadmissibles.
Inadmissibles. Quand on dit oui. Moi, j'ai travaillé 6 mois avec la World Rugby. Je sais de quoi je parle. J'ai été vice-président pendant 2 ans. Ça a toujours été comme ça. Il faut être important. C'est-à-dire que le mec qui joue au rugby à Auch tous les week-ends, ou ailleurs, ou dans les Pyrénées, ou dans le Comminges, ou à Lourdes, comme on a pu en parler cette année, lui, il va voir ça et il se dit, en fait, le rugby, on s'en fout. Les valeurs, on s'en fout. Il faut juste peser dans les instances. Et en fait, les grands matchs, ça sert à rien. Voilà. Bon, on l'a senti un petit peu. Il faut toujours avoir un petit peu d'influence. Hein, on vit pas dans le monde des bisounours. Mais de là à dire, moi j'ai travaillé 6 mois avec eux, moi je sais comment il faut faire, et moi j'aurais assez influencé pour qu'on puisse gagner la Coupe du Monde, je préfère pas gagner la Coupe du Monde et vivre celle qu'on a vécue, plutôt que de gagner une Coupe du Monde où on a triché. Voilà.
Bah, la valeur sportive n'y est pas. Si on gagne la Coupe du Monde de cette manière-là, la valeur sportive n'y est pas.
Voilà, donc Monsieur Laporte, je préfère avoir une coupe propre ou pas de coupe, plutôt qu'une coupe qui est remplie de billets avec des méthodes un petit peu peu scrupuleuses. Mais en tout cas, on est ravis de le voir à la direction des sports de Montpellier avec Moued Altrad, avec qui il est aussi en procès, qui est suspendu pour l'instant. L'affaire est en cours, mais voilà, c'est bien. On se rend compte on se rend compte que tout va bien. Et voilà. On embrasse Bastien Gros qui est aussi à Montpellier. Voilà, beaucoup. Bon, un club qui malheureusement quand même est très bien, mais voilà, c'est comme ça et c'est triste à dire. Bernard Laporte, moi, il m'a fait rêver quand il était entraîneur. Moi, avec ses frasques qu'il a eues dans les vestiaires, on voit beaucoup de vidéos. Moi, ça, voilà, c'est ça le rugby pour moi. Et là, il nous sort des conneries, pas possible. Et voilà, et je trouve ça dommage de la part de Monsieur Laporte. Attention, peut-être que vieillir un petit peu aigri. Voilà. Ça, c'est fait. Monsieur Courant Erwan, je pense que vous n'avez pas trop de... Peut-être c'est une contradiction, Erwan ?
Non, pas du tout. Là, je pense que vous avez très bien résumé la situation. C'est vrai que c'est...
Sorti lunaire.
C'est honteux. Et puis, j'espère que, juste quand il parle de ceux qui n'ont pas fait leur travail, bah, j'espère qu'il parle des gens sur le terrain avec toute sympathie. Parce que j'ai pas envie de penser que, comme vous le dites, qu'il parle du fait qu'on a perdu uniquement parce que Florian Grill n'était pas capable d'aller boire un café dans le bureau de Bilbon.
Voilà, ouais, c'était quand même grandement sous-entendu.
Et envers les gens sur le terrain. Voilà, j'imagine à aucun moment qu'il a voulu dire ça, bien évidemment.
Pour l'instant, ce n'est que supposition, mais voilà, sous-entendu que le rugby ne marche pas sans lui. Et bien, force est de constater que si, Monsieur Laporte, le rugby fonctionne aussi sans vous. Voilà.
Se demander s'il marche pas mieux.
Et peut-être et plus propre. Mais ça c'est pareil. L'affaire est en cours. On verra ces histoires de je ne sais plus d'ailleurs. C'est une histoire
d'ailleurs,
de sponsor.
Dans cette interview à RMC, Laporte qui a avoué que si jamais l'appel se révélait inconcluant pour lui, dans le sens où il le déclarait encore une fois coupable, il irait jusqu'en cassation.
Voilà. Donc il veut pas lâcher l'affaire. Et au vu de ce que sort, au vu de l'affaire, bon, on sait que ça va aller jusqu'en cassation, évidemment. Courant thème.
Oui, non, toujours bon de conclure et de rappeler que Bernard Laporte et Moued Altrad seront ainsi à côté en tribune pour le top 14, mais également à côté au tribunal pour le procès. Voilà.
Une histoire de sponsor qui était un petit peu arrangé. Monsieur Laporte qui a fait
conflit d'intérêt, tout à fait.
Voilà, qui a fait un petit peu d'appel du pied pour Montpellier. Voilà, le conflit d'intérêt, tout simplement, et c'est ça. C'est bien ça le cœur de l'affaire qui est à suivre. Et évidemment, on en reviendra dans Esprit Sport. Tout de suite, on retrouve un entretien avec Sylvain Houlès, entraîneur du TO 13. Il revient pour nous sur cette longue saison.
Esprit Sport, le face-à-face.
En face-à-face aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Sylvain Houlès. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes entraîneur du Toulouse Olympique 13 depuis 2013 avec de nombreux succès. Le doublé en 2014 où vous remportez le championnat de France et la Coupe de France. En 2015, vous êtes une nouvelle fois champion de France et puis vous avez gagné la Championship en 2021. Tout d'abord, félicitations pour ce parcours, mais aussi pour cette saison 2023 et votre parcours jusqu'à la finale.
Écoutez, oui, c'était pas gagné en 2023, juste après la descente de la Super League. Et voilà, repartir de l'avant avec un effectif un peu réduit, beaucoup de changements, on ne savait pas trop où on allait. Et donc voilà, c'est vrai que la saison 2003 était pour moi, était agréablement plaisante sur le fait du coaching, du groupe qu'on a eu. Vraiment, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à entraîner cette équipe en 2023.
Comment allez-vous, vous, en tant qu'homme, après la défaite en finale face aux London Broncos et après des vacances bien méritées?
C'est heureusement que j'ai un peu d'expérience maintenant dans le coaching, parce que c'est vrai que c'est fin de saison, et surtout après une défaite en finale fait tout le temps mal mentalement, et c'est il faut plus de temps. Voilà, une défaite en championnat, on a tout le temps la semaine après, le week-end après, où on peut se rattraper. Une défaite en phase finale, et même plus en finale, c'est plus dur à digérer. Il faut un peu plus de temps. Mais bon, voilà, heureusement que je suis bien entouré, que ce soit à la maison ou même dans le club avec les dirigeants, et même avec le groupe, avec le staff. On a une équipe très soudée, et on est en même temps fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a accompli cette année, saison 2023. Mais c'est vrai que perdre en finale,
il manquait la dernière étape pour vraiment parachever cette saison 2023. Où, pour rappeler un petit peu à ceux qui ne le savent pas, vous avez régné en maître à domicile, une seule défaite à la maison. Alors dans plusieurs maisons, hein, parce que avec la Coupe du Monde de rugby à 15, vous êtes allé jouer dans l'Aude, vous êtes allé jouer à Albi, chez vous. Vous êtes allé aussi à un retour aux sources, au stade Arnonnet. Avec le recul que vous avez maintenant, qu'est-ce que vous tirez de cette très longue saison?
Le groupe, l'équipe, les joueurs qui ont vraiment été, sont arrivés dès le début de saison avec un esprit revanchard de remonter en Super League, on avait un petit peu perdu notre ADN, Théo, que ce soit, enfin, même dans la culture, un petit peu dans le genre de joueur que l'on avait dans cette saison Super League, et on a retrouvé tout. Pour moi, c'est ce qui a été, ça a été ma plus grosse des victoires, d'avoir remis un petit peu l'ADN de Théo, et que ce soit avec tous les joueurs, un groupe leader qui a été sensationnel, qui a mené cette équipe de l'avant. Et c'est ce que je retiendrai, qui a fait que derrière on a accompli cette saison, parce que on est parti avec 20 joueurs professionnels, c'est au début de saison, ce qui est quand même énorme, et derrière énorme en termes dans le sens, pas beaucoup,
hein. C'est pas beaucoup de joueurs, oui, c'est vrai, c'est...
voilà. Mais après on a fait monter beaucoup de jeunes joueurs issus de notre formation et qui ont tourné leur rôle, et ça a été plaisant. Ils sont venus avec en faisant un peu en sorte que de faire le travail qu'on leur demandait, et après derrière ils sont restés dans le groupe pro, et ils ont amené vraiment leur pierre à l'édifice, et ça a été plaisant, franchement ça a été vraiment plaisant d'entraîner ce groupe, parce que il y avait un très très bon esprit, tout le monde s'entendait bien, personne ne se tirait dans les pattes, et ils ont voulu vraiment travailler en avançant et pour faire une belle saison. C'est un peu dommage, c'est 4 points de défaite en finale.
C'était
vraiment ça, parce que c'était un groupe extraordinaire. J'ai souvent dit, c'est peut-être, sans être péjoratif, mais c'est pas le groupe individuellement le meilleur groupe que j'ai eu à entraîner individuellement en tant que rugby, hein. Mais après, en tant que probablement groupe et équipe, ça a été le meilleur groupe de ces 10 dernières années.
Et pourtant, cette saison, elle commençait pas de la meilleure des façons. Oli Achalbot qui s'est blessé, l'aspect inquiétant des finances du club en cette fin de saison, le changement de président, une promotion qui vous échappe de peu il y a quelques semaines. Comment on se remet de tout ça pour se projeter au mieux dans la préparation de la saison prochaine?
En se disant que en se rappelant justement de tout ce que vous venez de dire, la perte d'Oli.
En se disant que ça peut pas être pire.
Parce que j'en ai eu connu et l'année Super League, pour moi finalement dans mes années coaching, ça a été la pire, hein, parce que on perdait et en plus il y avait pas une bonne annoncière, donc c'était
compliqué,
oui. et beaucoup de problèmes, mais donc voilà, j'espère qu'il y aura jamais plus pire que celle-là que 2021, mais après on a pris tout le long, enfin de toute façon une saison de rugby, et j'ai envie de dire dans tous les domaines. C'est, ben voilà, il y a des contraintes, il y a des coups, il faut se relever. Et cette année, voilà, on a perdu Oli, mais on a perdu Ruben Reigny aussi au centre. La Trench Onkel est rentrée, ne pouvait plus courir à cause de son genou. Enfin voilà, donc il a voulu rentrer en Australie. Et on a pris beaucoup de coups, et finalement, on fait quelque chose d'incroyable. Donc voilà, c'est pour moi, on a presque, j'ai envie de dire, le coaching a été énorme, le staff.
Oui, il y a eu quelques éclaircies incroyables. Jake Shorrox qui était magnifique cette saison. Zach Santo aussi qui arrive à la mi-saison, qui a fait de très belles choses. Là aussi, vous avez eu quelques éclaircies.
Anthony Marion a été incroyable. Hein. A été vraiment le lien entre nos avants, enfin, voilà, et nos trois camps. Enfin, voilà, il y a de tellement, tellement de bonnes choses. Et bon, et moi, après, je me rattache à ces jeunes aussi, des jeunes qu'on a fait monter, des Dimitri Viscaro. J'ai hâte de voir, après une grosse intersaison, ce qu'il va faire avec nous. Robin Brochon, qui a fait plus de 20 matchs, qui a enchaîné toute l'élite 1. On l'a fait jouer, voilà, dès qu'on a perdu Oli, on l'a mis à l'arrière. Dès qu'on a perdu Josh Ralph, on l'a mis à demi. Et il a tout le temps su relever le défi. Pierre-Jean Lima, voilà, Ben Laguerre, qui a commencé.
Oui, les frères Laguerre aussi, qui ont pu jouer, oui.
Ouais, voilà, il se pète l'épaule, il perd 4 mois, il revient, et il finit, et il fait une superbe finale. Enfin, voilà, il y a eu des belles histoires, et c'est ça, c'est comme ça qu'on va avancer. Et en même temps, voilà, c'est pour ça que ça a été formidable, parce que même, je veux revenir sur le problème des finances du club. Voilà, les joueurs en étaient conscients, mais n'ont jamais, jamais, jamais râlé ou quoi que ce soit. on dit, voilà, les leaders m'ont posé des questions souvent le lundi matin à la réunion, mais après, derrière, ça a été bouclé, enterré, et derrière, c'était coach, ne t'inquiète pas, nous, on est là pour jouer, on va faire le boulot sur le terrain, et on a confiance après à nos dirigeants, et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, donc quand on parle d'équipe, c'est de nos dirigeants à nos joueurs, en passant par tous ceux qui travaillent dans les bureaux, nos bénévoles, etc., qui ont bossé dans le même sens.
C'est dans ces moments compliqués, difficiles, où vous avez vu que les hommes que vous avez derrière vous étaient vraiment impliqués dans pas dans cette saison, mais dans la vie du Théo.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Où voilà, on a des bons joueurs, mais on a peut-être de grands hommes, des meilleurs, encore meilleurs hommes. Et ça c'est quelque chose qu'on a tout le temps été fier avant au Théo, dans le passé, et que peut-être on avait un peu perdu en Super League, malheureusement.
Est-ce que, justement, on va se projeter vers l'avenir, est-ce que cette saison 2024, vous voyez déjà quelques objectifs, même si c'est encore tôt et que le calendrier n'est pas sorti, qu'est-ce que vous prévoyez, vous ambitionnez de faire pour la saison prochaine?
Oui, bon, il faut continuer à jouer le haut du tableau, mais après, derrière, moi, pour moi, ce que j'en ressors maintenant, depuis quelques jours, c'est que l'objectif va être de former énormément de nos joueurs à la Super League, parce que bon, maintenant, avec les nouvelles règles de IMG et les notes qui viennent de sortir, on voit qu'on est classé à la 10e place. Donc ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'en 2025, on soit en Super League. Donc maintenant, là, ça va passer par ça. Il faut qu'on passe un cap dans notre intersaison, qu'on s'améliore encore athlétiquement, que je pense qu'on aille encore plus vite, qu'on soit encore plus fort et encore plus endurant, et intégrer encore plus de nos jeunes joueurs. Il y a notre élite a fait un très bon début de saison. Il y a quelques joueurs très intéressants là-dedans. Il faut qu'on les intègre au maximum avec nous dans le groupe pro pour qu'ils s'imprègnent et qu'ils ne perdent pas de temps là-dessus. Déjà, ils ont rentré pas mal d'entraînement avec nous, voire de matchs avec nous. C'est sur la saison 2024.
Justement, vous nous parlez des jeunes, du Théo et de l'élite. On va dézoomer un petit peu. La Coupe du Monde de rugby à 15 est terminée. Est-ce que vous avez vu un impact sur l'école des jeunes ou sur le nombre de personnes venant vous voir à Ernest Vallon?
Pas forcément, je dirais, moi. Enfin, voilà, sur notre école de rugby, bon, ça stagne. Après, derrière, bon, sur venir nous voir à Ernest Vallon, bon, la finale avait, il y a eu un bon impact. Après, est-ce que c'était parce qu'on était en finale ou à cause de la Coupe du Monde, je ne sais pas trop.
Vous nous avez parlé de 2025, alors là on va se projeter encore plus loin. Avec les Dragons catalans, vous êtes le deuxième club à jouer dans les championnats anglais. Récemment, le président de Carcassonne 13 a annoncé vouloir intégrer le championnat anglais en 2025. Comment vous voyez l'arrivée d'un troisième club français dans ces championnats?
Écoute, c'est une question délicate. Moi, j'ai envie de dire, c'est parce qu'il faut qu'ils sachent déjà que c'est compliqué.
Oui.
Il y a beaucoup. On est confronté à beaucoup d'adversités.
Le trajet aussi, qui est sûrement difficile.
Voilà, des problèmes de logistique, des problèmes de communication, même avec les Anglais. Il faut savoir que bon, voilà, surtout en Championship, on est dans un championnat anglais, gouverné par des Anglais, arbitré par des Anglais. Donc,
il faut savoir serrer les dents. Donc,
on ne fait pas de cadeaux. C'est que ce soit sur le terrain, mais en dehors aussi. Donc voilà. Et après derrière, il faut quand même aussi. Et bon, peut-être que je suis mal placé pour dire ça, mais il faut penser à notre championnat français aussi. Et parce que il faut pas le désemplir. Et voilà. C'est pour ça que je dis que je suis mal placé pour
en tout cas, on voit qu'il y a trois clubs qui veulent s'imposer dans un championnat plus difficile que le championnat français. C'est une bonne chose. Ça veut dire que le rugby à 13 en France continue de se développer de plus en plus.
Oui, c'est une bonne chose. Après, derrière, j'ai envie de dire, si on en est capable, est-ce qu'il ne faut pas monter notre championnat professionnel en France? Et des fois, ça c'est une réflexion un petit peu que je vous dis aujourd'hui, je me dis à moi-même, le jour où on aura le meilleur championnat que la Super League, est-ce que ce sera pas là qu'on aura gagné en France? Alors voilà, on est à des années-lumière encore, est-ce que c'est pas la vision qu'il faut avoir? Et c'est pour ça que quand je vois que Carcassonne parle de rentrer dans le championnat anglais, donc d'avoir une équipe pro. J'ai entendu un peu des fois Avignon. Si on n'a pas 5, 6, 7...
Revoir l'ambition un petit peu plus française que de suite aller voir...
Exactement. Et derrière, de faire quelque chose de solide en France, ça serait beaucoup, beaucoup plus effrayant, beaucoup plus facile. Bon, voilà,
on l'espère en tout cas, oui.
C'est sûr que c'est compliqué. Mais bon... Enfin voilà, ça c'est notre sujet, notre réflexion maintenant. C'est sûr que le plus on pourra confronter nos joueurs français au haut niveau, le mieux ça sera pour notre rugby à 13 français, ça c'est sûr et certain. Donc maintenant il faut se poser autour de la table, qu'est-ce que c'est qui est le mieux pour améliorer notre niveau en France.
À l'approche de 2024, quelles sont les échéances pour vous et votre staff avec le Théo?
C'est une grosse intersaison. Voilà, il faut qu'on monte de niveau. Chaque année, je le dis. Chaque année, on le fait. Donc, bon, on arrive maintenant à vraiment bien planifier nos intersaisons. Et c'est vrai que ça pour moi, c'est le plus important. C'est vraiment, on le voit, tous les joueurs qui font des grosses intersaisons sont capables de tenir la saison après derrière qui est longue. Voilà, des joueurs comme Anthony Marion et Paul Marcon ont été les deux seuls joueurs qui ont fait les 29 matchs cette saison. Et Paul Marcon, les 80 minutes de tous les matchs. Donc voilà, c'est pour tenir ça. C'est deux joueurs qui ont fait tous les entraînements de l'intersaison. Et c'est vrai que les joueurs qui commencent à avoir un peu des pépins déjà sur l'intersaison et qui commencent à manquer des séances, on voit que derrière ça tient pas sur la saison. Donc ça c'est la première des grosses échéances. Après bon voilà, attendre voir le championnat comment il est pour nous, notre calendrier, et voir un petit peu comment il va falloir se préparer, les temps forts un petit peu, les temps faibles, et voilà. Donc planifier tout ça, c'est probablement ça. Il n'y aura pas trop de grands changements en plus dans le squad, dans le staff, et donc tout le monde se connaît assez bien maintenant, et ça va nous permettre de gagner du temps. Et ce qui est pour moi le plus important, c'est qu'on aura de grandes chances. Il n'y a pas de match international, on n'a aucun international cette année, et donc au 20 novembre, on aura tout le staff au complet, ce qui, je pense, n'est jamais arrivé en 10 ans. Donc ça va être vraiment un gros plus pour nous.
De bon augure pour attaquer la saison prochaine. Pour terminer, qu'est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent vous souhaiter pour la saison prochaine?
Ben, c'est beaucoup, toutes les victoires en Ernest Vallon encore, ça nous porte chance, il faut continuer à gagner en Ernest Vallon, voilà, c'est une fierté pour nous, c'est notre maison, et on adore jouer sur ce stade et devant nos supporters. Mieux se déplacer, c'est vrai qu'en Angleterre, au début de saison, on a eu des matchs un peu compliqués. Après, derrière nous, on va prendre autant de plaisir qu'on a fait cette année. Pour moi, c'est ce qui est important, voilà, que ce soit un plaisir de venir les entraîner, ce groupe de joueurs, et qu'on n'ait pas de problème à gérer. Ça, c'est ce qui est le plus important, et qu'on puisse se concentrer qu'à développer, à aider notre équipe et nos joueurs. Et après, derrière, voilà, être champion, finir sur l'année championship en étant champion et en même temps monter en Super League grâce à notre note, mais en étant champion, ça serait, voilà, moins, y a personne ne peut rien dire.
Eh bien voilà, on vous souhaite tout ça et bien plus encore. Merci beaucoup, Sylvain Oulès, d'avoir été avec nous, et merci pour votre disponibilité. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Allez le Théo.
Ouais, voilà, merci beaucoup à vous, et allez vivre le Théo.
Allez, dans quelques instants, on va retrouver évidemment toute l'équipe pour débattre autour d'un sujet. Et aussi Corentin qui va nous faire une chronique. Ça arrive juste après Juliette Armanet.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin. Ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire. C'est la fin.
Après un week-end en demi-teinte des internationaux, on se pose la question, n'ont-ils pas repris trop tôt ? Alors on sait que on est tous un petit peu, on aime tous bien regarder le rugby le week-end, dans le canapé ou dans les stades pour certains, et on apprécie de voir des beaux matchs. Là, force est de constater que certains internationaux n'ont pas vraiment été au rendez-vous. Erwan, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pensez que les internationaux ont repris trop tôt ? Alors on le rappelle, ce week-end c'était le Fan Days, c'était un petit peu le week-end où il y avait tous les entre guillemets derby. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut penser de cette reprise, Erwan ?
Alors moi personnellement, je pense pas qu'ils ont repris trop tôt. Je pense qu'ils ont surtout repris à contre-courant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, la plupart des joueurs de top 14 n'ont pas été internationaux ou tout du moins ne sont pas allés jusqu'en quart et donc ont pu revenir. Quand même, il y a un petit moment en club. Ont eu le temps de faire un petit peu de préparation et puis voilà, il y a une grosse partie des effectifs qui a fait la préparation d'avant-saison, qui a fait les trois premiers matchs avant la Coupe du Monde, etc. Les internationaux, ils arrivent un peu dans ce top 14 qu'ils maîtrisent pas trop, qu'ils sont pas trop préparés, qu'ils ont pas trop entamé d'eux-mêmes, et du coup ils arrivent un peu à contre-courant de ce que les autres clubs peuvent offrir. Et notamment, je trouve que les clubs qui ont moins d'internationaux répondent bien mieux que les clubs qui ont des internationaux, même après que les internationaux soient revenus. Un peu compliqué à dire. Donc voilà, je pense surtout que c'est une question de savoir comment remettre les internationaux dans le bain. Et pour l'instant, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui y ait reçu.
Bah, ça veut dire qu'ils ont un petit peu repris trop tôt s'ils sont pas dans le bain.
Bah non, en fait, qu'ils aient repris là ou dans un mois, ça aurait été la même chose. Ils reprennent alors que d'autres ont déjà fait des matchs.
Corentin, qu'est-ce que vous... Oui, je sais bien, ouais, il m'engage, il me gronde en plus. Mais c'est ce que je dis. Corentin, est-ce que vous trouvez qu'ils ont repris trop tôt ? On peut voir que certains sont pas encore à leur niveau à 100%, peut-être que d'autres ont la tête ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je dirais quand même qu'ils ont repris trop tôt. Le timing était sûrement pas bon pour eux. Je trouve que beaucoup ont déçu. Et alors, bizarrement, les Toulousains, qui sont partis certes en masse avec l'équipe de France, ou avec leur nation, mais quand même, qui sont champions de France en titre et qui sont dans un groupe qui a pas forcément trop bougé. Alors certes, il y a des choses qui ont été travaillées depuis qu'ils sont partis en juin, etc. Mais pour un groupe quand même de joueurs qui se connaît depuis quand même plusieurs années, avec des automatismes, une colonne vertébrale qui est toujours la même, je trouve que c'est assez bizarre de voir un petit peu des joueurs un petit peu déjoués, comme l'a pu le faire Thomas Ramos, des joueurs qui manquent de repères, de rythme. Voilà, peut-être qu'il y a des mauvais choix qui ont été faits, peut-être que certains n'auraient pas dû reprendre aussi vite, même si certains ont performé. Je pense à Penaud, à Tonio, Borgarit ou à Stoy, que vous avez pu voir hier soir jouer lors du match La Rochelle-UBB. Mais encore une fois, il n'y a pas de quoi non plus se lever du fauteuil quand on les voit jouer. Ils sont dans le rythme, ils ont de bonnes performances, mais voilà, Penaud, il a marqué un essai qui était quasiment offert. Borgarit a marqué un essai sur un ballon porté. Les joueurs ne sortent pas du lot comme ils peuvent le faire. Alors pour Penaud, il est dans un tout nouveau groupe, mais on sent quand même que physiquement, ça a l'air d'aller. Moi, je pense que c'est vraiment mentalement aussi que la reprise, elle a été trop tôt. Peut-être parce que les joueurs, avec les clichés peut-être qu'on entoure du rugby, qu'il faut être solide mentalement, le combat, la lutte, la règle des 3E, l'envie, toujours l'envie. Par contre, peut-être que les joueurs sont fatigués mentalement, n'ont peut-être pas digéré la défaite, n'ont peut-être pas digéré aussi le fait de partir depuis le mois de juin jusqu'à fin septembre, fin octobre pour être avec le groupe des internationaux, d'avoir une pression, tout un pays, cette compétition. Et moi, je pense que la question de la fatigue mentale, il faut qu'elle soit abordée pour ces joueurs-là. On l'a vu avec notamment Aldrit qui prend du repos. Alors, il a dit que c'était pas dû forcément de la fatigue mentale, mais on peut se poser la question pour les autres joueurs quand même.
Il y a eu une imitation de Bernard Laporte sur les 3 E.
Ah non, pas spécialement, non.
Vous étiez lancé là, les E, c'était pas mal. Merci Corentin de nous offrir ce moment. Ça a beaucoup fait rire Coraline, elle en est encore rouge.
Oui, c'était bien sympathique.
Coraline, vous en pensez quoi ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont repris trop tôt ? Peut-être pour oublier la défaite, la Coupe du Monde.
Ouais, alors en effet, je pense qu'il y a une blessure mentale pour les Français qui est encore bien présente. Hein, donc ils avaient possibilité d'aller un peu plus loin et je pense qu'il y aura des regrets parce que c'était une Coupe du Monde dans leur pays et une Coupe du Monde dans son pays, ben ça arrive pas à chaque fois. Hein. Ça arrive une fois dans une carrière de joueur. Donc en effet, il y a une blessure mentale qui est présente et il y a une fatigue physique aussi peut-être pour certains joueurs. Je pense aux joueurs du Stade Toulousain parce que c'est quand même de là où viennent beaucoup de joueurs français. Ils ont été champions de France, donc ils ont terminé la saison tard. Ils sont partis de suite en équipe de France. On a vu la préparation a été très très rude pour les organismes, donc la fatigue physique elle est là aussi. Et la saison ne fait que commencer, la saison de top 14 ne fait que commencer. Donc je pense qu'il y a aussi un petit peu de fatigue physique qui est bien installée. Et malheureusement, il aurait fait peut-être fallu prendre quelques jours de vacances, enfin quelques semaines de vacances supplémentaires.
Revenir que pour le Boxing Day peut-être ?
Ouais, peut-être, ouais. Peut-être, en effet, effectivement, je pense que c'est ce qu'il aurait fallu faire. La blessure mentale aurait peut-être été soignée et la fatigue physique plus présente.
Et puis il y a les 6 nations qui vont arriver en février.
C'est ça, c'est
donc
que...
Donc c'est dans 2 mois et demi.
Ça n'arrête jamais février. En fait. Là pour les internationaux, cette année c'est une saison
donc,
c'est
novembre, d'enfer en fait. Novembre il reste quoi ? 2 matchs. Décembre il y aura tout le mois. Janvier tout le mois.
Exactement.
Et février, paf, bonjour, Irlande, France-Irlande de février.
Il me semble qu'il y avait 14,
non, mais c'est,
14
c'est...
matchs qui s'enchaînaient. Je dis peut-être un chiffre erroné, peut-être que Erwan pourra me corriger sur ce point-là. Mais il y avait énormément de matchs, que ce soit les matchs de top 14, les matchs de Champions Cup aussi qui vont arriver.
Mais du coup, c'est quoi ? C'est le fait qu'ils sont revenus trop tôt ou c'est le fait que le calendrier devient beaucoup trop surchargé?
Ah bah ça bien sûr, on en a déjà parlé.
Parce que s'il est surchargé le calendrier, il n'y a pas de trop tôt ou trop tard. C'est dans tous les cas, c'est toujours trop tôt.
Mais les joueurs s'en plaignent, les joueurs notamment internationaux s'en plaignent bien souvent que leur calendrier est trop chargé. Et ça se comprend parce que par exemple, si vous prenez les joueurs qui ne sont pas dans des sélections, bien souvent, alors bon, pas cette année parce qu'il y a eu la Coupe du Monde, mais bien souvent en novembre, vous avez une trêve de 1 ou 2 semaines pour la tournée d'automne. Pour les tournois destination, il y a des fois quand même 1 ou 2 matchs où il n'y a pas de top 14, donc ça fait des semaines de repos en plus que les internationaux n'ont pas.
On le voit avec La Rochelle qui a du mal aussi, le Stade Toulousain qui a du mal aussi, Montpellier qui est dernier, voilà. Corentin.
Bah, toujours pour rester aussi sur cette histoire de calendrier qui risque de ne pas s'alléger avec un projet de Coupe du Monde des clubs qui est en cours aussi. Donc oui, à un moment, il va falloir se poser la question de la fatigue physique des joueurs. Là, on a Antonio qui va revenir en équipe de France pour dépanner parce que apparemment, on n'a pas un pilier droit qui tient la route à part lui. Moi, je sais pas, mais à un moment, là aussi, les présidents de club, peut-être qu'à payer les salaires des joueurs, à ne pas pouvoir les voir sur les périodes de doublons, etc., ça risque d'être compliqué. Alors après, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a une génération d'internationaux U20 qui sont champions du monde, qui sont dans beaucoup de clubs de top 14 et pas forcément les plus gros. Hein. Le Stade Toulousain n'a que Paul Coste qui a été champion du monde lors de la dernière de compétition. Donc voilà, s'il y a un vivier, ça va permettre de faire émerger des jeunes, mais voilà, il faut penser aussi aux autres joueurs, à leur fatigue physique et mentale, et puis même à la lassitude du public, de pas se retrouver dans une situation comme au foot, où on est abreuvé de contenu, de match, et puis finalement, ça s'en ressent sur la qualité, et puis les gens se lassent et ne regardent plus forcément toutes les affiches comme ils auraient pu le faire avant. Peut-être qu'on aura moins plaisir à regarder un Bordeaux-La Rochelle dans quelques années, parce qu'en fait, on a beaucoup trop d'affiches qui sont de très haut niveau par rapport à un match qui est déjà exceptionnel aujourd'hui.
Ça perd un petit peu de sa saveur, un petit peu de son prestige, ce genre d'affiche.
Mmh. Tout à fait.
Et en tout cas, voilà, on espère que certains internationaux vont pouvoir remettre un petit peu le pied à l'étrier dans les prochains matchs. Merci beaucoup, Erwan. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose pour terminer ?
Bah effectivement, moi je voudrais dire que les internationaux qui du coup, les internationaux U20 qui du coup ont, on va dire, un peu juste après leur période de repos, ont pu profiter de l'absence des autres internationaux souvent pour rentrer dans le moule d'une saison typique pour un joueur professionnel, c'est-à-dire avec avec pré-saison, premier match, etc., même s'il y avait la coupure Coupe du Monde qui était un peu particulière, ben on se rend compte que ces derniers, ils sont assez performants quand même. Alors, à part peut-être pour les avants, où généralement l'éclosion, elle se fait peut-être autour plutôt des 23 ans, mais les arrières, que ce soit les Paul Kos, les deux Porter, ou même les Hugo Reuss, voilà, ils font un très très bon début de saison. Et je pense particulièrement à deux Porter qui a été vraiment
Ah oui,
excellent
lui, il
hier
vous a
malgré
tapé dans l'œil,
la
oui.
défaite de Bordeaux.
Il vous a tapé dans l'œil. Et Reus qui a mis un coup de pied gagnant à La Rochelle au dernier match aussi. À l'avant-dernier match, pardon.
C'est ça, qui est de plus en plus décisif avec La Rochelle. Et ça fait c'est impressionnant de voir un joueur aussi jeune arriver à être décisif, parce que
Ah
souvent
bah
c'est quelque
c'est
chose
bien.
qui se voit avec l'âge, souvent. Et là,
C'est bien, ça c'est positif pour le 15 de France.
exactement.
Voilà, j'essaye de motiver un petit peu tout ça parce que là, c'est un petit peu fatigué. Justement, quelqu'un qui va nous réveiller avec énormément de sentiments, de souvenirs. On va remonter dans le temps, il y a 10 ans, il me semble.
Esprit Sport, la chronique.
Avec la chronique que nous offre, nous propose Corentin.
Oui, que je vous propose avec plaisir, et vous l'avez bien dit, Jonathan, on va remonter 10 ans en arrière, précisément au mois de novembre, un mois de novembre qui est souvent un mois avec des dates qui ont marqué le sport français et le football français particulièrement. Pourquoi? Car en novembre se terminent souvent les phases de qualification pour les compétitions internationales. Le format a évolué avec les années, mais le couperet reste le même, ne pas participer à de grands événements tels que l'Euro ou la Coupe du Monde. Les Français le savent, quand on parle de déception, on va parler de 82, mais on parle surtout de 94, le 17 novembre exactement. France-Bulgarie, le centre de Ginola, le but de Kostadinov, les propos de Gérard Rouillet dans la presse, le crime contre l'équipe, etc. Mais cette histoire, vous ne la connaissez que trop bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler d'un mois de novembre qui s'est plutôt bien passé pour notre équipe de France. C'était hier, les 10 ans de France-Ukraine en barrage de qualification pour le Mondial 2014 au Brésil, pays du foot. Un petit rappel du contexte, les Bleus sortent de trois compétitions plutôt chaotiques, l'Euro 2008 dont on a retenu seulement la demande en mariage de Domenech à Estelle Denis, la Coupe du Monde 2010 et son super bus, d'ailleurs on embrasse Jennifer Ayache si elle nous écoute, et puis 2012 avec l'affaire des quotas et Laurent Blanc qui quitte l'équipe de France avant de partir pour une petite épopée avec les Parisiens. Didier Deschamps reprend l'équipe avec de grands noms, Benzema, Ribéry, Lloris, Patrice Evra, mais aussi des plus jeunes comme Pogba ou Varane notamment qui font leur arrivée dans le groupe. Alors n'ayant pas terminé première de leur groupe, l'équipe de France est devancée par les champions du monde espagnols qui sortiront lors de la phase de poule de la Coupe du Monde au Brésil. Ça fait toujours du bien de le rappeler, la petite fessée que leur ont infligée aussi les Pays-Bas en phase de poule. Les Bleus doivent donc affronter l'Ukraine en barrage. Le match aller se déroule à Kiev et les Bleus s'écroulent, perdent 2-0. Coup de massue, les hommes de Deschamps voient leur rêve de mondial s'envoler. 4 jours plus tard, le 19 novembre, au Stade de France, le public répond présent et les Bleus aussi. 22e minute, Mamadou Sakho frappe le premier.
Oui. Il a frappé, c'était pour Pogba. La faute! Allez, peut-être le but! Oui! Ouverture du score pour l'équipe de France!
Et oui,
c'est
ça,
ça
le Mamadou Sakho!
C'est Mamadou
permettait.
Sakho qui met le feu!
Les Bleus sont libérés d'un poids, et puis on se dit, et si c'était possible? À la 30e minute, Benzema voit son but refusé pour un hors-jeu inexistant. Mais ce dernier persiste et trouve la faille à la 35e minute de jeu.
Il y avait pas mal, il y avait pas mal, il faut jouer.
Ouais, un bon centre.
Debuchy le centre, deuxième poteau. S'écroule. Laisse jouer. Derrière peut-être. La frappe.
But.
Cette fois c'est au fond.
Cette fois-ci,
c'est le
cette fois-ci elle est au fond.
Et c'est validé par l'arbitre assistant. 2-0 pour l'équipe de France qui a refait son retard. Pabaloum.
Je vous l'avais dit.
Et oui, Wenger, il avait dit, Benzema qui n'avait plus marqué depuis plus de 1000 minutes avec les Bleus débloque son compteur et au meilleur des moments. Les Bleus ont refait donc leur retard, comme l'a dit Christian Jean-Pierre, mais il reste un petit but à marquer pour éviter les prolongations. Et alors, comme Thuram à son époque, c'est Mamadou Sakho qui s'illustre avec un doublé du bout du genou.
La tête de Sakho. La frappe!
Ouais!
Allez, le but peut-être!
Voilà.
Oh là là, Paul Pogba! Elle a monté Ribéry! Nouvelle occasion!
Et oui, la rotule la plus célèbre de France avant celle de Samuel Umtiti sacrifié pour la nation et le titre de champion du monde en 2018, Sacco célèbre et il est à deux doigts d'enlever son maillot, mais il a bien fait de se rappeler qu'il avait pris un carton jaune. La France aurait peut-être terminé son match à 10 contre 11 et qui sait, le scénario aurait été chamboulé. Mais le score en restera là. La victoire de la France 3-0, un score bien connu et apprécié du Stade de France. La France explose de bonheur.
Et on souffle côté français.
Si c'est le maillot alors.
Là, on y est. À mon avis, on n'est pas prêt de revoir avec un maillot vert. Loris,
c'est fini.
C'est fini. Ce soir, c'était une équipe, c'était pas une sélection. Bravo messieurs, bravo Didier.
Bravo à Mamadou Sakho aussi.
Bravo à Sakho.
Et oui, il l'a dit Christian Jean-Pierre, ce soir c'était pas une équipe, c'était une sélection. Alors oui, les Bleus verront le Brésil, mais au-delà de cette qualification, de cette victoire historique et de ce beau moment offert au peuple français, c'est le retour de la communion de l'équipe de France avec son public, et surtout la naissance d'un groupe, d'une base de joueurs qui plus tard iront en finale de l'Euro à la maison, décrocheront une étoile de champion du monde en Russie, et retourneront même en finale de Coupe du Monde pour défendre leur titre. Bien sûr, beaucoup de joueurs ont porté la tunique entre-temps, mais l'esprit, lui, forgé par Didier Deschamps, est bien né ce soir-là.
Eh bien, merci beaucoup, Corentin. Ah là, vous m'avez mis les poils, là. Est-ce que vous saviez où vous étiez, Rouen, il y a 10 ans ?
Eh ben oui, exactement, j'étais devant ce match. Et en vrai, comme j'en ai parlé sur un petit tweet que j'ai fait quand j'ai vu que c'était effectivement les 10 ans, je pense que c'est le match de foot qui m'a le plus marqué de ma vie, ce match. Donc ça fait très plaisir que Corentin le mette en avant. Et notamment, même plus marqué, je pense, que la finale de 2018 ou même celle de 2023 ou de 2016. Voilà, c'est un magnifique match que beaucoup ont oublié plus tard, mais pas moi en tout cas, ça c'est sûr.
Il y a Coraline qui a hoché la tête. Hein. Non, Coraline n'est pas d'accord avec vous.
Non, Coraline, elle voit le temps passer malheureusement. Oui, cette émission qui
elle est bientôt pas finie, il nous reste 3 minutes
mais
encore.
Oui, mais voilà, exactement, l'émission qui
vous
va
étiez
bientôt...
où il y a 10 ans, Coraline ?
Moi, j'étais où il y a 10 ans ? Boudiou, je m'en sais. Je
Boudiou ne sais plus. Très bien, voilà, on va passer au pronostic parce que le Boudiou là, non, c'est trop. Non mais c'est trop, mais il dit Boudiou à l'antenne, non mais n'importe quoi Coraline. Le prochain match, samedi 21h, Stade Toulousain, Clermont, Erwan, votre pronostic, vous avez 30 secondes, top départ.
Excuse-moi, j'ai pas entendu le match, petite erreur.
Clermont, Stade Toulousain, Clermont.
Stade Toulousain, Clermont. Alors pour moi, le Stade Toulousain va vouloir se rattraper des mauvais résultats qu'il a pu avoir les dernières semaines. Et voilà, je pense que vraiment il va y avoir un effort commun pour avoir une victoire de calibre, on va dire. Et j'imagine pas Clermont réussir à faire la différence face à Toulouse, un Toulouse bien remonté comme des coucous, si je puis me permettre. Et donc voilà, j'imagine une large victoire de Toulouse.
Voilà, merci merci Erwan pour cette petite expression aussi des coucous, c'était beau là, avec le bout du de Coraline.
Les coucous,
on sent que c'est la fin, hein, on tire sur la charrue. Hein. Corentin, votre pronostic ?
Alors, je vois quand même le Stade Toulousain gagner, avec un gros combat quand même imposé par les Clermontois, qui aussi seront revanchards après une défaite de 3 points à la maison. Alors, il va falloir que Hugo Mola mette sûrement de la densité au niveau du pack et même au niveau de la ligne arrière. Et peut-être que Paul Coste doit laisser sa place, souffler un petit peu après le bon début de saison qu'il a fait, remettre Dupont en demi-mêlée et peut-être compléter avec un Baptiste Germain qui était aussi en forme récemment. Victoire des Toulousains, mais point de bonus défensif pour les Clermontois.
Très bien. Un peu plus courageux que la semaine dernière, quand même.
Parce que la semaine dernière. Plus courageux, j'ai quand même osé un match nul, quand même.
Non, la semaine dernière, c'était ridicule. C'était ridicule la semaine dernière, Corentin, soyez honnête. Ridicule.
On n'est pas passé si loin, quand même.
Oui, bien sûr. Coraline, ça n'est le mieux sorti la semaine dernière. Elle avait vu une victoire de Pau.
Oui.
Bien vu, l'aveugle.
Bien vu. Parfait. Exactement. Au top.
Et du coup, vous, Coraline, Stade Toulousain, Clermont.
Alors moi je pense plutôt, j'opterai plutôt pour une victoire du Stade Toulousain. Victoire, mais victoire, courte victoire, allez, je dirais 10 points d'écart. Malgré mon flop de tout à l'heure, je pense quand même que le Stade Toulousain peut réussir à battre Clermont. Avec allez, pourquoi pas, une ambiance de feu à Ernest Vallon.
Pardon. Ben oui, c'est bien de le voir comme ça, Coraline.
Exactement. Moi, j'y crois à cette ambiance de feu qui arrivera un jour dans l'année.
Ben oui. Ouais, oui. Merci, Coraline. Oh, c'est une petite pique pour le Stade Toulousain, ça. C'est pas...
Ouais, non, pour les spectateurs du Stade Toulousain.
Ah,
pour certains spectateurs.
Quand il fera moins de 10, vous allez voir, ça va chanter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Corentin. Merci, Erwan.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci, Coraline, pour ce boudiou.
C'était grave.
Il va rester incroyable celui-là. La semaine prochaine, nouvel invité au micro d'Esprit Sport. On parlera de restauration du corps et du mental après une blessure. On sait que certains sportifs sont surmenés. La saison sont trop longs ou que bien d'autres facteurs jouent sur leur santé. Nous verrons comment faire pour remonter la pente. Merci d'avoir été avec nous pour cette heure de sport. Et n'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même radio.